Souvenez-vous, la semaine passée, nous avons parlé du psaume 139 et nous avons découvert quelques aspects de la nature de Dieu. Nous avons découvert que Dieu est omniscient, qu'il sait toutes choses, il sait quand tu t'assieds, quand tu te lèves, il te voit même dans l'endroit le plus improbable. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Et il connaît toutes choses, il connaît même la pensée avant même qu'elle ne se forme dans notre tête. Et nous avons été édifiés, encouragés par les attributs du Seigneur. Ce matin, nous allons apprendre un nouvel attribut du Seigneur. Car rien ne nourrit autant l'âme que de connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Souvent, nous avons un Dieu imaginaire. Nous pensons que Dieu est comme ceci ou comme cela, qui ressemble à tel ou tel. Nous projetons des images humaines sur Dieu et nous pensons que Dieu est comme ça, mais nous voulons toujours revenir à la parole éternelle. La parole de Dieu, la Bible, votre Bible, et nous voulons découvrir au travers de ces textes bibliques qui ont traversé les âges et qui sont fiables, qui sont toujours la parole de vérité pour nous et pour tous les temps, tous les peuples, sous toutes les latitudes. Pour découvrir qui est le Seigneur, nous allons découvrir un aspect, j'espère, un peu plus. J'aimerais éclairer un aspect particulier sur la nature du Seigneur. Lorsque vous recevez de l'argent en échange d'un travail effectué, ça s'appelle un salaire, n'est-ce pas? Lorsque vous gagnez dans une compétition, que vous atteignez une performance ou un résultat, vous allez obtenir un prix ou une médaille. Lorsque vous avez été reconnu pour un mérite particulier, que vous êtes beaucoup donné pour une cause, vous êtes récompensé et vous recevez une reconnaissance. Mais lorsque vous n'avez pas reçu un salaire parce que vous n'avez pas gagné votre vie, ni obtenu la médaille parce que vous n'avez pas été le sportif à la pointe, ni reçu une récompense parce que vous vous êtes engagé dans aucune cause, mais que vous recevez quand même quelque chose, un merveilleux don, ça s'appelle une grâce. Ça s'appelle une grâce. Peut-être que cette introduction est une faible et pâle image de ce que je voudrais partager avec vous ce matin, la grâce de Dieu. La grâce, c'est la faveur imméritée, librement accordée par le Seigneur en notre faveur. Alléluia. C'est quelque chose que je ne mérite vraiment pas, mais que je reçois quand même. Simplement parce que Dieu, dans sa nature, est un Dieu de grâce. Mais la grâce de Dieu va bien au-delà. Ce n'est pas seulement pour ceux qui n'ont rien fait qui obtiennent quelque chose, mais même pour ceux qui ont raté tout, qui sont remplis d'échecs, de culpabilité et de choses qui ne fonctionnent pas dans leur vie, ceux qui ont fait le mal et ceux qui ont trempé dans les pires choses, ceux-là aussi reçoivent la même grâce pour se relever, pour émerger, car ils reçoivent une chance nouvelle pour rebondir dans la vie. Car le Seigneur est capable de relever, non seulement de donner une chance et donner un but à la vie, non seulement de celui qui n'a jamais rien fait et qui, à partir d'aujourd'hui, devrait faire quelque chose, mais aussi de celui qui est tellement brisé par la vie ou qui a tellement trempé dans des choses négatives et qui a fait du mal. Ceux-là peuvent être libérés, pardonnés, recevoir la grâce de Dieu pour devenir les témoins de Jésus pour aujourd'hui. Et je pense qu'au milieu de nous, il y a bien des personnes qui ont vécu cela. Non seulement vous avez été touchés par la grâce de Dieu et vous n'aviez rien fait, rien de particulier, mais vous avez la grâce de faire quelque chose. Mais il y en a aussi qui ont détruit, qui ont cassé, qui ont brisé, qui ont raté, qui ont eu des échecs, qui ont fait du mal que personne ne sait, mais que Dieu a vu, et qui ont fait peut-être du mal autour d'eux, à leurs proches, et qui le savent et qui portent encore les conséquences de ce mal. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pour faire grâce à chacun, à celui qui n'a rien fait, mais aussi à celui qui est le plus bas tombé, pour le relever et le remettre à flot, pour lui redonner une chance pour rebondir dans la vie. Oui, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas de vous, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous voulons connaître aujourd'hui la grâce de Dieu, la nature de la grâce de Dieu, car Dieu est à l'origine de toute grâce et il est digne d'être loué. Écoutez, 1 Chronique 16, 34 nous dit « Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa grâce dure à toujours. » Il serait tellement dommage qu'aujourd'hui, alors que la grâce dure encore, parce que demain nous ne savons pas ce qui se passe, mais aujourd'hui je sais que la grâce de Dieu est pour aujourd'hui. Alors je le loue pour sa grâce. « Célébrez l'Éternel car sa grâce dure à toujours. » Dieu aime la justice, dit encore le psalmiste, et la droiture, et sa grâce remplit toute la terre. Oh, quand je pense que la terre entière, avec tout ce qu'elle contient, tous les peuples, mais aussi tout ce qui se passe, elle est encore au bénéfice de la grâce de Dieu aujourd'hui. Dieu pourrait mettre un terme à tout cela, il pourrait juger, il pourrait stopper. Nous n'avons pas idée en une seule journée la somme de mal qui peut être fait sur la terre. Nous en avons quelques échos d'après les informations, mais qu'est-ce que c'est? Mais Dieu voit tout cela, il pourrait facilement mettre un stop, un arrêt total à tout cela, mais Dieu choisit encore de faire grâce. Est-ce que nous voulons lui dire merci pour sa grâce aujourd'hui pour toute la terre au nom de Jésus? Il est merveilleux. Alléluia. Oui, la Bible dit dans Jacques chapitre 1, que toute grâce et que tout don parfait vient du Père. J'aimerais que nous puissions comprendre ce matin que tout est grâce. Vous allez me dire, mais non, moi tout à l'heure tu parlais de salaire, mais moi j'ai gagné ma vie. Moi je travaille dur pour avoir mon salaire. Moi je cours vite pour avoir mon prix. Moi je fais quelque chose pour obtenir un résultat. Donc c'est moi qui réalise, qui obtient le résultat parce que je le mérite. Oui. Mais d'où vient la force, d'où vient la santé, d'où vient que tu sois dans un pays où tu peux faire tout cela? Tu pourrais être ailleurs, naître ailleurs, dans d'autres conditions où tu n'aurais pas ces mêmes grâces. Tout est grâce, mes amis. Notre pain quotidien est une grâce, notre santé est une grâce, les possibilités sociales que nous avons, les aides et la sécurité que nous avons, tout est grâce. Toute grâce, nous dit la parole de Dieu, toute grâce vient du Père des Lumières. Lisons maintenant dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 34, et nous lisons à partir du verset 5. C'est le contexte où Moïse va tailler les deux tables de la loi, et il va maintenant, ces tables qui sont écrites de la main de Dieu, les cinq paroles d'un côté, les cinq paroles de l'autre, les dix commandements, les dix paroles vont être marquées sur ces tables, ces principes, pour le bonheur de la société d'Israël et pour le monde, bien sûr. Et lorsque Moïse va descendre de la montagne, Dieu lui dit ceci, « L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. » Je m'arrête là pour la lecture. Dieu se définit. Dieu ne peut pas s'empêcher alors que Moïse porte sur lui les lois. Dieu va ajouter à cette loi la grâce. Il va ajouter la proclamation solennelle en disant « L'Éternel, l'Éternel, je suis compatissant, je fais grâce, je suis lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. » Il connaissait si bien Israël qui venait juste de tomber dans l'idolâtrie. Mais Dieu dit, je suis encore le Dieu de grâce. Si tu es tombé même dans des choses graves, je suis encore aujourd'hui le Dieu de grâce. Je suis lent à la colère, mais ne joue pas avec ma grâce. Ne provoque pas la patience de Dieu. Mais Dieu dit aujourd'hui, il est descendu, il s'est tenu près de Moïse. Il a passé devant Moïse pour dire tout cela. Et j'aimerais que ce matin, Dieu puisse passer autour de vous. Devant vous, vous regardez les yeux dans les yeux pour vous dire « Je suis le Dieu de la grâce. Saisis ma grâce aujourd'hui. Vis dans la grâce. Loue-moi pour la grâce que je te donne. Mais ne joue pas avec ma grâce. » Parce que si nous avons reçu un héritage, nous sommes responsables de cet héritage. Nous rendrons compte pour cet héritage. Nous ne devons pas jouer avec les choses de Dieu. Nous devons être habité par cela, connaître Dieu comme le Dieu de grâce et toujours partir sur cette grâce, compter sur sa grâce, avancer avec la grâce. mais jamais prendre ces choses à la légère, jamais. Et il va dire, Moïse va répondre, au verset 8, il va dire, il va s'incliner à terre, il va adorer Dieu, et il dit, « Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous. » Il a dit, « Ce Dieu-là, eh bien, j'aimerais qu'il marche avec moi, et moi avec lui. » Si vous comprenez la grâce de Dieu, si vous saisissez la grâce de Dieu, si vous êtes habité par cette réalité, cette connaissance de Dieu, qui est la grâce de Dieu, alors vous dites, Seigneur, je ne veux plus jamais te lâcher. Je ne veux plus jamais marcher à côté, loin de ce Dieu de grâce. Je veux être proche de lui et je veux que lui reste proche de moi. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Je veux, comme Moïse, avoir ce même réflexe, cette même réplique en disant, Seigneur, ce Dieu-là, qui est capable de faire grâce après l'épisode du veau d'or, ce Dieu-là qui est capable de faire grâce après les pires échecs, au lieu de me laisser tomber, au lieu de me condamner ou de me donner une punition sévère, si Dieu dit, je viens autour de toi, je me place devant toi pour te dire les yeux dans les yeux, je suis le Dieu de grâce, alors Seigneur, je veux marcher avec toi. Prenez la première décision ce matin en disant, Seigneur, je veux marcher avec le Dieu de grâce. Je veux marcher proche de mon Dieu qui est un Dieu de grâce. Est-ce qu'on veut le dire ensemble? Je veux marcher proche de mon Dieu de grâce. Alléluia. Mais l'expression de la grâce de Dieu ne se trouve pas que dans l'Ancien Testament, mais trouve le point culminant et l'expression la plus puissante, la plus lumineuse, la plus forte, trouve l'expression dans la venue du Fils de Dieu sur la terre. Dans la personne de Jésus qui va dire, ou la parole va dire ceci, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oui, avec Jésus, une nouvelle ère va commencer. C'est l'ère de la grâce, c'est la dispensation de la grâce. Non pas que toutes les lois sont effacées et mises à la poubelle. Les précieuses lois que Moïse va descendre du Sinaï restent toujours actuelles. Mais la grâce de Dieu va venir. La grâce de Dieu va être dans les premiers mots que Jésus va prononcer. Il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi », Luc 4. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les opprimés, ouvrir les portes des prisons et publier une année de grâce dans le Seigneur. » Mes amis, l'année de grâce du Seigneur qui a été proclamée ce jour-là dans la synagogue de Nazareth, il y a 2000 ans, cette année de grâce n'est pas terminée. Alléluia! Elle n'est pas terminée. Elle est encore aujourd'hui en vigueur. Car cette loi, cette année de grâce, c'est l'année du jubilé dans le calendrier juif, tous les 50 ans. Eh bien, l'année de grâce se passait, le jubilé qui relâchait les esclaves, qui relâchait les prisonniers, qui pouvaient revenir. Les compteurs étaient remis à zéro. Ceux qui avaient perdu leur terre, qui avaient perdu dans les affaires, dans leur commerce, retrouvaient une chance pour rebondir. L'année de grâce proclamé par Jésus, te permet aujourd'hui, à partir de ce dimanche matin, de te relever, de remettre les compteurs à zéro, pour saisir la grâce, en connaissant le Dieu de grâce, et en vivant, à partir de là, dans une vie nouvelle, selon la grâce de Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'Évangile, mes amis. Ça, c'est l'Évangile. Jésus a fait grâce. Alors regardons un peu comment Jésus va faire pour connecter la loi qui était en vigueur, bien sûr, en Israël. Et c'était la loi de Dieu quand même. Comment est-ce que lui, le Fils de Dieu, pouvait allier la loi et la grâce en même temps? Et les pharisiens l'avaient compris. Ils ont plusieurs fois piégé Jésus en disant, on va voir s'il applique la loi ou s'il fait autre chose. Lorsque la femme adultère a été prise, cette femme adultère va être traînée devant Jésus, il va être environné de ces pharisiens qui vont être à son écoute. Moïse dit qu'il faut lapider cette femme, c'est la loi de Moïse. Toi, que dis-tu? Et Jésus, comment va-t-il s'en sortir? Il dit, va, je ne te condamne pas non plus. Que celui qui n'a jamais commis de péché jette la première pierre, dira-t-il. Et les gens convaincus par la... par l'onction du Saint-Esprit qui est sur Jésus, ils étaient convaincus, ce n'était pas un prédicateur ordinaire. Jésus transmettait une onction qui convainquait les gens. Et ça qu'on veut dans les cultes, c'est que la parole de Dieu puisse convaincre et toucher les gens. Donc ces gens-là, ces pharisiens sont convaincus que leur propre vie n'est pas en ordre, ne correspond pas à la loi de Dieu, et qu'ils ont eux aussi enfreint la loi de Dieu. Et Jésus va laisser partir cette femme en lui disant « va et ne pêche plus ». Et on peut dire... pourquoi n'a-t-il pas appliqué la loi ? Il est quand même le Fils de Dieu, il doit appliquer la loi du Père. Et lorsque cette autre femme va venir, et va lui laver ses pieds avec ses larmes, et va tellement dire « merci Seigneur, parce que tu m'as libéré, parce que tu m'as délivré de ces démons, parce que tu m'as sauvé, tu m'as pardonné », Jésus va dire « c'est parce qu'elle a reçu beaucoup de grâce qu'elle va aimer beaucoup ». Vous savez, lorsque vous comprenez la grâce pour votre vie, vous allez aimer Jésus en fonction. Vous allez aimer Jésus en fonction de la grâce que vous avez saisie et comprise dans votre propre vie. La loi n'est-elle plus appliquée ? Comprenez bien ceci. Jésus ne va pas appliquer séance tenante la loi en lapidant cette femme ou en condamnant ces autres personnes qui méritaient manifestement un jugement. Parce que dans quelques semaines ou dans quelques temps, il allait lui-même endosser cette croix et il allait lui-même monter à Golgotha pour payer le prix du jugement. C'est pourquoi il ne va pas condamner, parce que lui va être condamné à leur place. Et ces situations qui se trouvaient avant la croix, c'est pour ça que Jésus n'intervient pas, parce que dans quelques temps, il va porter leur punition, leur châtiment et la sanction qu'ils méritent. C'est lui qui va payer à leur place. Mais nous qui vivons après la croix, 2000 ans après la croix, c'est exactement la même chose. Nous ne sommes pas condamnés aujourd'hui parce que Jésus a été condamné à notre place. Il a payé à la croix du calvaire pour l'ensemble des péchés du monde entier. Il a pris mes forfaits, il a pris mes fautes, il a pris ce que je méritais, il a pris ma punition. Et il a dit, je vais payer à ta place. Voyez-vous, il faut comprendre ceci. La grâce est gratuite pour nous. Mais elle n'a pas été gratuite pour Jésus. Il y a quelqu'un qui doit payer pour la grâce. C'est comme si je circulais en ville et que j'enfreignais le code de la route et que je me fais arrêter par un agent et qui doit me dresser un procès verbal ou même me réclamer directement, séance tenante, la somme que je dois verser pour être un contrevenant, et qu'au lieu de faire cela, alors je suis déjà en train de chercher quelque part mon porte-monnaie pour trouver la somme et que je suis un peu énervé parce que je trouve que ce n'est pas juste, alors que je sais très bien que j'ai fauté, donc je dois quand même essayer. Nous savons toujours nous défendre. On cherche toujours à sauver sa face. Non, ce n'était pas moi, c'était j'ai pas vu, je ne sais pas pourquoi, mais on n'est jamais coupable, n'est-ce pas vrai ? Donc je suis toujours devant mon agent, et puis l'agent attend un moment que je me calme, que je réfléchisse et que je dise, monsieur l'agent, vous avez raison, je mérite le PV, je mérite la sanction, je mérite de passer à la caisse. Ça ne me plaît pas, mais je le mérite. La loi, c'est comme ça. La loi du code de la route me l'impose. Et voilà que l'agent va sortir son porte-monnaie lui-même. Je vais avoir des yeux comme des ronds de flanc, je vais avoir une bouche ouverte. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Je pensais qu'il allait sortir son flingue. Alors maintenant, il sort son porte-monnaie et il va sortir les billets de banque pour payer l'amende à ma place. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça ? Mais mes amis, c'est exactement ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Quelqu'un a payé pour vous. La grâce n'a pas été gratuite pour Dieu. Nous devons apprécier le cadeau que nous avons reçu. Et vous savez, la grâce, elle nous réjouit aujourd'hui parce que tout ce qui est gratuit nous fait sourire, c'est bienvenu, quand c'est pour nous, mais quand c'est pour les autres. Regardez, le fils aîné de la parabole du fils prodigue dans Luc chapitre 15. Regardez, là nous avons un exemple de quelqu'un qui s'est complètement fâché quand le père fait grâce à son plus jeune fils, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a tout gâché. Il a détruit l'honneur de la famille, il a perdu l'argent, il a raté sa vie, il a fait du mal, il a déshonoré complètement. Et il revient repentant à la maison et le père lui fait grâce. Le père lui fait grâce. Et le fils aîné, qui fonctionne sur le modèle de la loi et du mérite, tu travailles fort, tu mérites un salaire, tu ne travailles pas, tu ne mérites rien. Tu fais bien, tu as une récompense, tu fais mal, tu mérites une punition. Et ce fils aîné est irrité quand le père fait grâce. Les pharisiens étaient irrités quand Jésus faisait grâce. Ce matin, si tu ne comprends pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas te réjouir quand la grâce tombe sur les autres. Tu n'arrives pas à te réjouir. Tu n'arrives pas à te réjouir quand Dieu fait du bien aux autres. Quand les autres qui, à votre regard, ne méritent franchement pas ça, et qui quand même ils sont bénis, ça vous dérange parce que vous n'avez pas compris la grâce de Dieu. Il nous faut saisir ce matin la nature de la grâce de Dieu. Non pas pour jouer avec, mais comme je vais en parler dans quelques instants, pour comprendre comment ça va changer notre vie. La grâce est gratuite pour nous, mais elle est très coûteuse pour celui qui a payé pour nous. Alléluia. C'est pourquoi je l'apprécie. À cause de cela, le Seigneur m'ouvre ses bras et il me dit ceci dans Hébreux chapitre 4, verset 14. L'auteur nous dit, « Puisque nous avons un tel sacrificateur qui fait grâce, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a connu ce que nous connaissons. Il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Et voici ce qui est dit. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ce matin, la première chose que je vous invite à faire, c'est de vous approcher de l'endroit qui s'appelle le trône de la grâce. Approchez-vous du trône de la grâce. La première chose que Dieu va faire, ce n'est pas de nous juger. Parce que, je l'ai déjà dit, il a jugé déjà Jésus. Et à cause de ça, je peux m'approcher du trône de la grâce pour obtenir grâce et miséricorde. Dans la mesure où je reconnais mon besoin, mes frères et sœurs, je dois reconnaître mon besoin. Arrêtons de nous excuser. Arrêtons de sauver notre face tout le temps et de dire c'est la faute de ceci ou cela, je n'ai pas compris, je ne sais pas pourquoi. Mais nous, c'est jamais nous. Les enfants sont spécialistes pour ça. Ils sont spécialistes pour... Certains enfants, pas tous, certains enfants, je me souviens de certains enfants, ils sont tout de suite repentants, ils confessent tout de suite leur faute, mais d'autres, ils sont spécialistes pour se débiner à tout bout de champ. Nous devons reconnaître notre faute pour obtenir grâce. Je vais répéter cela. Nous devons reconnaître d'abord notre faute pour obtenir la grâce. Ensuite, après nous être approchés du trône de la grâce, nous devons demander grâce. Regardez avec moi dans le psaume 57, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Il dit, « Aie pitié de moi, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce. » Aie pitié de moi peut être traduit aussi, « Fais-moi grâce. » La première chose qu'il demande, « Seigneur, si je n'ai pas ta grâce, maintenant je suis fichu. J'ai besoin de ta grâce. » Alors que ce matin, tu m'écoutes, mon frère, ma sœur, demande la grâce de Dieu pour ta vie. Demande la grâce de Dieu pour ta vie. Supplie Dieu pour la grâce. Reçois sa grâce. Demandez et vous recevrez. Tu fais une bonne prière en disant, « Seigneur, comme David autrefois, je suis dans une caverne, je suis dans un trou, je suis mal, je ne suis pas bien, je suis tout seul. J'ai l'impression que le monde est fermé autour de moi, mais aujourd'hui, je te demande, fais grâce. » David a été exaucé et vous serez exaucés. De la même manière, alléluia. Le Seigneur entend les soupirs de ses enfants qui demandent grâce, qui s'approchent du trône de la grâce. Allons plus loin. La grâce doit avoir une incidence dans nos relations. Je l'ai déjà dit, est-ce que nous pouvons nous réjouir de la grâce de Dieu chez les autres? Lorsque Pierre et Jean arrivent, ou lorsque Barnabas va arriver dans une église qu'il ne connaissait pas, il nous a dit qu'il vit la grâce de Dieu et s'en réjouit. Lorsque vous regardez que les autres sont bénis, ou lorsque vous rencontrez quelqu'un, est-ce que vous remarquez chez ce quelqu'un avant tout ce qui ne va pas, tout ce qui doit changer, tout ce qui ne vous plaît pas? Ou est-ce que vous vous réjouissez d'abord de tout ce qui va? Au début de mon stage, ça remonte à bien longtemps, c'était début des années 80. À l'époque, c'était une époque, je dirais, héroïque et pionnière aussi. Stagiaire, jeune stagiaire célibataire que j'étais, eh bien, nous étions demandés tous azimuts pour faire du travail à droite, à gauche. Il n'y avait pas d'accompagnement pastoral véritable non plus. J'essayais de faire face à tout cela au mieux, mais il n'y avait pas d'évaluation en disant « Walter, tu fais bien ci » ou bien « tu peux encore changer cela, c'est bien ce que tu fais ». Il n'y avait pas d'encouragement véritable non plus. Et donc j'avançais un petit peu à l'aveugle en donnant le maximum de mon énergie pour ce stage. Et puis un jour, une personne très engagée dans l'église s'approche de moi. Quand je me suis calmé un petit peu, elle s'est assise. Et quand elle m'a regardé, et les yeux commençaient à se remplir de larmes. Et elle me dit, « Quand je vois ce que Dieu fait dans ta vie, quand je vois comment tu changes, comment tu avances, comment Dieu t'utilise, je suis tellement touchée. » J'étais complètement abasourdi d'entendre ça, parce que quelqu'un avait vu la grâce de Dieu en moi, alors que moi, je n'avais rien vu du tout. Je ne remarquais rien et on ne m'avait rien dit. Mais cette personne, à un moment donné, utilisée par Dieu, elle a dit simplement, « Je vois tellement la grâce de Dieu et la main de Dieu sur ta vie. » Et j'avais l'impression que ce n'était pas le cas. Mais elle avait ce regard de se réjouir de la grâce de Dieu chez les autres. Peut-être voyez-vous d'abord tout ce qui reste à changer chez l'autre. J'aimerais que vous changiez votre regard aujourd'hui. Regardez avec les yeux du Dieu de la grâce qui se réjouit de la grâce. Tout ce que Dieu a déjà fait, de tout ce qu'il fait. Alléluia. Et maintenant, non seulement nous devons nous réjouir de la grâce que nous voyons dans nos relations chez les autres, mais il y a un autre texte qui me parle aussi. Dans Colossiens chapitre 3, versets 12 et 13, il nous est dit ceci. Il nous est dit, comme des élus, des saints et des bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un doit se plaindre d'un autre, écoutez bien, comme Christ vous a fait grâce, faites-vous aussi grâce mutuellement. Je peux faire grâce parce que je sais que Christ m'a fait grâce. Nous pouvons saisir la grâce de Dieu et nous pouvons être pleins de grâce auprès des autres dans la mesure où je me souviens combien j'ai été gracié par le Seigneur. On peut se dire, mais c'est évident, mais tout le monde ne peut pas comprendre cela, puisque Jésus a raconté une parabole expressément dans cette butte-là, où il dit que certains ne comprennent pas la grâce. Et il va prendre une parabole avec des extrêmes dedans. Il va raconter l'histoire d'un homme qui devait une somme d'argent à un autre. Cette somme d'argent représentait 10 000 talents. C'était la monnaie et les poids de l'époque. C'était, d'après les recherches qui ont été faites, ça correspondait soit un talent était 45 kilos d'argent ou 90 kilos d'or environ. Donc 10 000 talents représentaient une somme digne de la Banque nationale en Suisse. 900 tonnes d'or, à peu près. Et quand Jésus raconte cette histoire, les gens ont souri, bien sûr, parce qu'il dit, mais cette somme, personne ne possède une somme pareille. Même César à Rome, il n'a pas 900 tonnes d'or quelque part. C'est pratiquement pas possible. Donc, ils ont souri, mais Jésus raconte cette histoire lui-même. Et ensuite, cet homme va demander grâce, grâce, grâce. Fais-moi grâce, je ne peux pas payer. Bien sûr que tu ne peux pas payer. Alors, le propriétaire va faire grâce et va lui remettre totalement la somme dans son entier. Il ne paye plus rien. Alors il dit, hurra, c'est merveilleux. Et voilà qu'il repart et il trouve un ami, un copain, un compagnon, qui lui doit 100 deniers. Un denier correspond à 5 grammes d'or. Donc vous avez en opposition 900 tonnes d'or. Ce n'était pas 900 kilos tout à l'heure, mais c'était 900 tonnes. 900 tonnes. 10 000 talents égale 900 tonnes d'or. Et lui doit 500 grammes. 900 tonnes, on lui a pardonné. Et lui, l'autre lui doit 500 grammes d'or. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, tu me payeras tout. Je te fais mettre en prison jusqu'à ce que tu aies payé. Alors bien sûr, comme vous ce matin, les gens sourient quand Jésus raconte cette histoire. Et Jésus va dire, mais Quand le propriétaire principal va entendre parler de cette histoire, il va prendre cet homme et il va le mettre en prison, le livrer au bourreau, et il va être soumis au tourmenteur. Mes amis, il y a tant et tant de gens qui sont soumis au tourmenteur aujourd'hui, qui ne dorment plus la nuit, qui sont tourmentés parce qu'ils sont incapables de faire grâce à leur prochain. Bien sûr, on leur a fait du mal. Bien sûr, ils ont été blessés. Bien sûr, ils ont été vraiment mal pris. Et peut-être que les autres méritent également qu'on s'occupe de cette situation avec sérieux. Mais Jésus va dire, si tu oublies la grâce que Dieu t'a faite, tu pourras difficilement faire grâce aux autres. Ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre cela. N'oublie pas la grâce que Dieu t'a faite. Et parfois, nous disons, mais moi, c'est pas grand-chose. Dieu m'a pardonné juste quelques petits détails, comme ça. Personne n'est parfait non plus, hein. Donc, j'ai juste été pardonné de quelques petites choses. Mes amis, nous avons été sauvés d'une perdition éternelle. C'est pourquoi nous voulons nous souvenir que la grâce de Dieu, nous devons la comprendre en nous approchant de nouveau de la croix. La croix nous permet de voir la grâce de Dieu. Si tu ne peux pas pardonner, approche-toi de la grâce de Dieu. Approche-toi de la croix. Contemple la croix. Saisis ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans à la croix du calvaire pour toi. Regarde ses souffrances. Regarde ses mains tendues. Regarde son sang qui coule. Regarde sa couronne d'épines. Regarde les clous dans ses mains et ses pieds. Afin que tu saisisses le prix qu'il a payé pour te libérer. Même si tu te crois bien portant. Même si tu te crois au-dessus de la mêlée, que tu n'as pas fait ce que les autres ont fait. Toi aussi, tu mérites la perdition et l'enfer, parce que ta nature de péché t'emmène dans la perdition. Mais Jésus est venu pour t'arracher de la perdition. Il a payé un prix fort, et si tu oublies la grâce, reviens ce matin à la croix du calvaire. Reviens à la croix. N'oublie jamais la croix. Il y a un chant qui dit, il y a toujours une place au pied de la croix pour toi. Il y a des millions qui sont là devant la croix, mais il y a toujours une place pour toi afin que tu puisses saisir et comprendre ce que Jésus a fait pour toi et ce dont tu as été libéré vraiment à la croix du calvaire. La grâce a coûté si cher à Jésus pour que nous puissions apprécier pleinement son œuvre. J'aimerais très brièvement terminer par quatre conséquences heureuses de la grâce de Dieu. La première, la grâce de Dieu nous permet toujours de nous relever. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Paul va dire, j'étais auparavant un blasphémateur, j'étais auparavant un persécuteur et un homme violent, mais le Seigneur a fait grâce. La grâce de notre Seigneur a surabondé. 1 Timothée 1, verset 13. David a été relevé. Pierre a été relevé. Tant et tant de disciples ont été relevés. Ce matin, le Seigneur te relève par sa grâce. Saisis sa main. Et comme Moïse, tu vas dire, Seigneur, marche avec moi. Ne me quitte plus jamais. Deuxièmement, la grâce de Dieu t'accompagnera toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toujours, tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. La grâce de Dieu t'accompagnera toujours. Troisièmement, la grâce de Dieu suffira toujours. Lorsque Paul va se battre et va plaider avec le Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, j'ai une écharde qui me fait si mal dans la chair. Seigneur, enlève cette écharde. Le Seigneur va lui répondre, ma grâce te suffit. Mes amis, écoutez bien, en terminant, la grâce de Dieu est toujours à la hauteur de votre besoin. Elle est toujours suffisante pour vous consoler, vous porter, vous donner la victoire, vous redonner la joie. La grâce de Dieu contient en elle-même la toute suffisance du Seigneur pour votre besoin. Ma grâce te suffit. Est-ce qu'on veut le dire ensemble? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Hallelujah. Et quatrième et dernièrement, tu peux partager la grâce de Dieu avec quelqu'un d'autre. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, dira Pierre, dans sa première lettre au chapitre 4, que chacun de vous mette au service des autres les dons de grâce qu'il a reçus. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Est-ce que cette semaine, est-ce que nous sommes d'accord, frères et sœurs, de partager les grâces de Dieu? Est-ce que nous sommes d'accord de les donner, de les dispenser, d'être centré un peu sur les autres? Pas seulement dire « Merci pour ta grâce, Seigneur, je jouis de ta grâce, c'est formidable ta grâce, mais je veux partager ta grâce à ceux qui ne connaissent encore rien de la grâce de Dieu ».